Elle n'est pas à l'ordre du jour.
Anastasie Toudiech, merci. Et pour le débat, nous avons donc trois invités. Docteur Axelle Rons, qui est coordinatrice des activités Ebola à Médecins Sans Frontières, qui est avec nous depuis Bruxelles. Nous avons le médecin colonel Ibrahima Sosefal, directeur général adjoint de l'OMS en charge des questions d'urgence. Il est en ligne de Butembo. Et nous avons également Nikes Kibel Beloka, qui est journaliste d'investigation basé à Beni, mais qui est en ce moment à Kampala. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Alors, je commence avec vous, Ibrahima Sosefal. L'OMS travaille étroitement avec le gouvernement congolais. Le départ du ministre de la Santé en pleine crise liée à l'Ebola n'affecte-t-il pas la réponse sur le terrain?
Merci beaucoup. Donc, je tiens d'abord à féliciter le ministre de la Santé sortant pour sa collaboration depuis le début de l'épidémie et la transparence dans l'échange d'informations. Je pense que les structures opérationnelles sont déjà en place, donc le travail continue, les priorités sont les mêmes et les partenaires sont engagés donc sur le terrain. Il n'y a pas d'interruption pour le moment. Donc nous comptons travailler avec le même niveau d'engagement avec l'équipe qui a été mise en place par le président de la République.
D'accord. Alors, Axelle Rons, on évoque l'introduction d'un deuxième vaccin expérimental de Johnson & Johnson. Le vaccin déjà utilisé est très efficace, nous dit-on, n'est-ce pas? Pourquoi introduire un deuxième vaccin?
Pourquoi introduire un deuxième vaccin? Je pense qu'en fait, le premier vaccin, effectivement, a montré son efficacité. L'importance, par contre, c'est de s'assurer que ce vaccin soit donné. On donne le vaccin au contact et au contact des contacts. Et donc, ce qui est très important, c'est que ce suivi de contact et de contact de contact soit bien fait. Donc, effectivement, là, on a un vaccin qui montre ses preuves, mais peut-être que c'est le système dans lequel il est mis qui n'est pas suffisamment efficace. Après avoir un deuxième vaccin, peut-être que c'est une opportunité d'avoir une disponibilité plus importante de vaccins ou autre chose. Dans mon cas de figure, c'est d'autres collègues qui s'occupent plus de cette introduction de nouveaux vaccins si s'avère, mais voilà.
D'accord. Disons, docteur Fall, il n'y a pas de guerre de vaccins, n'est-ce pas, comme certains le disent?
Non, pas du tout. En réalité, les gens se focalisent toujours sur le vaccin Johnson & Johnson en parlant de vaccin. Il y a trois autres candidats à vaccins et les recommandations de l'OMS sont très claires. Il faut continuer donc les essais cliniques en respectant les bonnes règles donc, de pratique clinique pour ces candidats à vaccins en les testant chez les travailleurs de santé. Donc c'est toujours à l'étape d'essais cliniques pour avoir plus d'informations sur l'efficacité et sur l'innocuité. Je pense qu'il est important donc de respecter ces recommandations de l'OMS.
D'accord. Nikes Kibel Ebobeka, comment ce départ et la mise en place d'un comité d'experts géré par la présidence est perçu par les populations?
Il faut dire que le problème de la population, ce n'est pas qu'on change de comité ou que l'ancien comité a bien travaillé. La psychologie de la population, c'est une population qui est meurtrie, qui a connu et qui connaît d'ailleurs les atrocités des rebelles des ZADF, et puis il y a la maladie qui arrive. La population n'a pas été préparée pour accueillir la maladie, même si la maladie ne s'annonce pas. Mais aussi, les équipes qui sont arrivées sur terrain n'ont pas tenu compte de la psychologie de la population, parce que c'est une population qui tient souvent, qui veut qu'elle voit ses propres enfants, les enfants de la communauté, les médecins, les infirmiers de la communauté. Et là, le changement d'équipe pouvait poser des problèmes. Mais dès lors que la population trouve que les enfants, le personnel soignant de la communauté est loin, ne gère pas, ça ne dit absolument rien.
D'accord. Alors, Ibrahima Sosefal, je reviens vers vous. Vous avez été nommé récemment pour superviser les urgences sanitaires à l'OMS et vous êtes en ce moment sur le terrain. Mais pourquoi la RDC semble avoir du mal à contrôler cette épidémie alors qu'elle est créditée d'une grande expérience dans ce domaine?
Je pense qu'il faut revenir au contexte dans lequel cette épidémie survient. Le journaliste qui a parlé tout à l'heure a évoqué un contexte particulier. C'est une zone d'abord de conflit avec plusieurs groupes armés. C'est une zone qui n'était pas préparée à ce genre d'épidémie. C'est la première épidémie qui survient donc au Nord Kivu, en littoral. Même les travailleurs de santé ne connaissaient pas Ebola. Bien que Ebola soit survenu en RDC, donc à plusieurs reprises, il a fallu les former donc de façon très élémentaire, même pour les mesures de prévention des infections. Vous avez vu que dès la deuxième semaine d'août, déjà, nous avons un nombre important d'infirmiers et de médecins qui ont été infectés. Donc c'est un contexte où le système de santé est extrêmement faible. Quand vous prenez la ville de Beni, par exemple, vous avez plus de 300 formations sanitaires privées, informelles, qui ne répondent pas aux normes sanitaires et qui amplifient la transmission de l'épidémie. Et dans un contexte d'insécurité où les équipes ont eu des difficultés pour accéder aux communautés, il a été très difficile donc de mener les opérations dans un temps approprié. Et il faut rappeler aussi que l'épidémie a duré plus de 4 mois avant d'être détectée. Cela veut dire qu'il y a eu beaucoup de chaînes de transmission qui n'ont pas été identifiées et beaucoup donc de cas qui étaient dans la nature. À cela aussi, donc si on rajoute le contexte de méfiance de la population, donc qui rejette même les médecins venus de Kinshasa et d'autres régions, ça a pris du temps pour que ces populations, par exemple à Butembo, à Katwa, acceptent donc les médecins et les experts qui sont venus travailler avec eux. Donc c'est un contexte très particulier, c'est un contexte urbain, alors que la plupart des autres épidémies sont survenues dans une zone rurale où la population était très mobile. Donc voilà un peu ce qui fait la particularité de cette épidémie.
D'accord. Et justement, Axel Ronce, depuis le début de l'épidémie, il y a eu plus de 130 attaques contre le personnel sanitaire. Votre organisation Médecins Sans Frontières en a fait les frais, hein, entre autres. Qu'est-ce qui explique ces violences visant les CTE, les centres de traitement Ebola?
Comme Dr Saucé vient de l'expliquer, effectivement, la population, elle a du mal à comprendre cette maladie, à ce fléau-là qui arrive au milieu de toutes les autres choses qu'ils connaissent déjà. Et les centres de traitement, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Et donc, quand on veut un peu riposter contre Ebola ou contre les acteurs, c'est un peu les endroits auxquels on s'attaque. Il faut dire que pour la population, elle a été longtemps perçue, cette maladie, comme une maladie amenée par le côté politique, et le fait quand il n'y a pas eu les élections n'ont pas été menées au mois de décembre dans la zone, ça n'a fait qu'un peu accentuer ces velléités de la population contre cet ensemble qu'on appelle la riposte Ebola.
Et le moral, il est bon au niveau du personnel
Ils sont très courageux parce qu'effectivement c'est pas facile de faire partie de la réponse quand on est comme ça visé alors qu'on est censé qu'on vient pour sauver, aider, soigner des gens, mais les gens notre personnel reste mobilisé et essaye de s'investir comme on peut, et on prend les mesures qu'il faut. Ce qui est super important et qu'on n'a peut-être pas encore assez ici, c'est avoir la population doit être au cœur du dispositif, doit être avec nous dans la réponse. Et ici, peut-être que la sensibilisation, l'engagement communautaire n'a pas encore atteint le niveau qu'il faudrait pour pouvoir contrecarrer l'épidémie correctement.
D'accord, on pourra d'ailleurs y revenir en seconde partie. Mais Nikkez, pourquoi une partie de la population et des groupes armés réagissent de façon hostile à la présence du personnel de santé pour vous?
Il faut dire que depuis pratiquement 2014, même avant les élections, cette population était hostile à tout ce qui venait de Kinshasa et tout ce qui ne sortait pas d'elle-même. Et parce qu'il y a une suprématie de la coutume par rapport à l'État. La population n'acceptait plus la présence de l'État. Alors, la maladie est apparue à un mauvais moment. Et à ce moment-là, il y a eu aussi les élections avec l'intoxication. D'abord, quand on faisait croire à la population que l'Ebola n'existait pas, c'était une invention. Donc, si c'est une invention, cette invention, au même titre que les rebelles adverses, c'était pour exterminer la communauté. Et c'est comme ça que la population, avec les ministres armés, parce que bien avant Ebola, il y a eu la tarification, les tatouages des jeunes gens pour résister à tout ce qui ne sortait pas de la communauté. Alors tous ces faits conjugués ont fait que la population puisse s'attaquer aux équipes de la riposte, et à tout celui qui collaborait avec les équipes, notamment, on a commencé à menacer, à taper les enfants humiliés qui traitaient avec les équipes, et finalement à s'attaquer au centre des traitements. Mais aussi, il faut souligner un autre point. Au départ, il y a eu un son discordant entre le personnel local soignant et les équipes qui sont arrivées. Au sujet des primes, le personnel local soignant, qui dans la plupart des cas est issu de la même communauté, n'a pas apprécié la différence de primes, de paiement des primes entre les standards romains et les nationales et ce qui s'est passé sur le terrain.
D'accord. Alors, Ibrahim Assocéphale, on le voit clairement, il y a un problème de perception sur le travail que fait l'OMS et d'autres organisations sur le terrain. Il y a beaucoup de théories de complot. Et qu'est-ce qui va changer dans la stratégie de sensibilisation?
Je pense qu'il est important de continuer la sensibilisation en utilisant les différents canaux disponibles. Mais c'est surtout le travail donc, de terrain au niveau le plus périphérique possible. Si vous avez vu qu'on a pu avoir un impact à Butembo et Kato, c'est parce qu'on a utilisé une approche décentralisée avec les partenaires pour aller au niveau R de santé et avoir des équipes qui sont capables de travailler avec la population locale en utilisant les plateformes et les structures communautaires qui existent. Donc, et c'est autour de ces dialogues que la population donc, comprend mieux ce qui se passe. Cette population désigne les membres qui doivent participer à la riposte contre Ebola. Et ce n'est qu'avec la population par la communauté donc, qu'on peut avoir des résultats. Mais d'accord. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que ce qui se passe à Butembo et à Katoa ne peut pas être juste répliqué à Beni ou à Mangina ailleurs. Dans chaque localité, il y a des spécificités dont il faut tenir compte au niveau de la structure communautaire, au niveau des acteurs communautaires.
D'accord. Axel, Laurence, pensez-vous que jusque-là, l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la RDC a l'attention qu'elle mérite au sein de la communauté internationale?
Je pense qu'elle a un petit peu perdu de l'attention, mais maintenant qu'elle a été déclarée comme urgence d'utilité publique, l'attention va peut-être revenir dessus. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu un quelque chose d'oublié et que ça revient aux esprits de tout le monde une fois que ça commence à toucher des grandes villes ou un autre pays, comme ça a été le cas. Mais notre attention à nous, en tout cas, elle est toujours là-bas. Voilà.
Voilà. D'accord. Donc, je dois dire aussi que nos téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Jean-Luc Mukutu à Lubumbashi dit « Maintenant que l'OMS vient de déclarer Ebola une urgence sanitaire mondiale, j'en appelle à la conscience de toutes les parties, en commençant par la population, qui doit faciliter la tâche aux équipes de la riposte en acceptant notamment de se faire vacciner, aux groupes armés de ne pas s'attaquer aux équipes de secours, car la santé doit être une affaire de tous. » Tassi Koivera Saidi à Butembo, en RDC, écrit « Mon constat est que la population ne croit pas réellement qu'Ebola existe. Elle pense qu'Ebola est une autre manière de la massacrer. » Pour Alphonse Mbouaki à Kinshasa, « Ebola risque de s'étendre dans les pays voisins et aller plus loin dans le monde, d'où la nécessité pour la communauté internationale via l'OMS de s'impliquer. » Voilà donc quelques réactions de nos auditeurs sur Facebook. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum, Abdourahman Dia, donc à la présentation, nos invités, je rappelle Axel Ronce, coordinatrice des activités Ebola à Médecins Sans Frontières, qui est avec nous depuis Bruxelles. Médecin colonel Ibrahim Assocéphale, directeur général adjoint de l'OMS en charge des questions d'urgence, en ligne de Butembo en RDC, et Nikes Kibel Beloka, journaliste d'investigation basé à Beni, en ce moment donc en déplacement à Kinshasa. La ville de Goma, la plus grande métropole de l'Est de la RDC, a enregistré ce mois son premier patient diagnostiqué avec le virus Ebola. Il est mort lors de son transfert vers Butembo. Cette information a créé la peur à Goma, une ville de plus d'un million d'habitants, frontalière du Rwanda et dotée d'un port et d'un aéroport desservant d'autres pays. Alors, comment réagissent les populations face à la menace d'une propagation de l'épidémie dans cette ville? Notre correspondant sur place, Charlie Kasereka, a posé la question à quelques habitants. Je vous propose de suivre.
Par rapport aux démissions, pour nous, ça pose déjà problème parce que ça nous crée déjà la peur. Nous voyons d'abord qu'il y a une crise de leadership qui est incontrôlable et qui, quand vous voyez une personne ou alors une personnalité morale commencer à démissionner, et donc ça veut dire qu'il y a des mesures qui sont ingérables.
Je vois comment l'équipe de la Riposte travaille. De ma part, je peux dire que cette équipe travaille bien, et d'une autre part, je peux dire qu'il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des choses à corriger, parce que si au moins cette équipe a arrivé à détecter le premier cas d'Ebola, c'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, et c'est quelque chose à encourager. Néanmoins, le médecin qui sont dans la Riposte contre Ebola devrait mettre un peu d'humanisme et dans leur façon de traiter le malade, parce que quand vous êtes confirmé cas confirmé Ebola et que qu'on vous traite, qu'on vous maltraite, c'est comme si on vous poussait directement vers la porte de la mort.
Nous demandons le changement d'approche, c'est-à-dire nous voulons que nos médecins ou bien les services qui d'entrée de l'entrée et sortie de notre ville, hein, nous aurons bien voulu avoir de l'eau partout dans nos maisons. Il n'y a pas de pot de lavage de mains dans des universités et partout même dans des églises. Est-ce qu'il y a de l'eau, il n'y a pas de savon? Voilà des questions qu'on se demande de la prise en charge dans la question.
Le gouvernement congolais ne s'implique pas comme il faut dans cette situation. Toi, tu voulais que le gouvernement fasse quoi?
Non, le gouvernement a proposé qu'il faut. C'est basé surtout sur la propriété de santé. Alors, ici à l'université de Goma, nous voyons que le gouvernement congolais ne s'implique pas comme il faut. Par exemple, l'eau ne se trouve pas ici à l'université de Goma. On demande d'appliquer la propriété. Il n'y a pas de savon, il y a des mouvements un peu partout. Ça peut poser aussi des problèmes.
Voilà donc quelques réactions à Goma. Nikes, la victime de Goma était un pasteur qui a dû être en contact avec d'autres personnes. Quels sont les risques au vu des pratiques religieuses et coutumières dans cette zone? Et comment convaincre les populations qu'on ne doit plus se serrer la main, par exemple, à l'église ou ailleurs?
Au niveau de certaines églises, notamment de l'église catholique dans les diocèses de Tébobéni, on ne se salue plus, on ne se serre plus la main et lors des messes. Mais le vrai problème reste au niveau de ce qu'on appelle les églises de réveil, où on se touche, on se colle. Il faudra convaincre les pasteurs que c'est une maladie, c'est un fait accompli. Il faut l'accepter comme tel, il faut arrêter avec certaines pratiques. Mais comme l'a dit aussi l'ONU, les intervenants, il faut enseigner, faire accepter aux gens le lavage des mains. C'est très important parce que le vrai problème, c'est la population. L'acceptation des faits, l'acceptation des conseils que les équipes médicales donnent, c'est ça qui peut sauver. On peut changer d'équipe si la population n'adhère pas à tous les prescrits, à toute la réglementation qu'on exige les soins. Alors là, ça complique.
D'accord. Ibrahim Assocéphale, Goma est une ville carrefour. Hein. Êtes-vous inquiet concernant une propagation de la maladie dans d'autres pays de la région, sachant que l'Ouganda est déjà touché?
On sait depuis le début de l'épidémie, nous faisons régulièrement l'évaluation du risque et nous avions considéré déjà Goma comme un endroit à très haut risque. La même chose pour les pays comme l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et le Burundi. Donc sur cette base, nous avons mis en place avec donc, les partenaires et le gouvernement, les équipes à Goma, pour les mettre en mode de réponse avant même qu'il y ait un cas à Goma. C'est pour ça qu'ils ont pu détecter très rapidement ce cas et organiser la réponse donc, autour de ce cas. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore un autre cas à Goma, mais le risque reste très élevé. Nous devons être très vigilants et continuer à être en mode réponse au niveau de Goma et aussi au niveau des autres localités à risque.
Oui, rester vigilant, donc c'est le maître mot. Axel, avant l'épidémie dans trois pays ouest-africains en 2014 et celle qui sévit actuellement en RDC, la maladie frappait souvent des zones assez isolées et restreintes géographiquement, donc disons plus gérables. Comment adaptez-vous votre réponse face à un virus aussi contagieux mais qui touche de plus en plus de larges territoires?
En fait, la réponse, c'est les mêmes règles à appliquer, que ce soit dans un endroit petit, éloigné, ou dans un endroit plus où il y a plus de circulation comme maintenant. Et effectivement, ici, on est dans une région où on peut dire, je voulais renchérir sur le cas de Goma. En fait, ça fait 11 mois qu'on avait peur qu'il y ait un cas à Goma. On sait bien, finalement, que ça ne soit arrivé que maintenant, et c'est étonnant. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours la même chose. Maintenant, c'est la zone dans laquelle on doit intervenir, qui est plus grande, où il faut vraiment informer la population, leur expliquer ce que c'est la maladie, ce qu'il faut faire quand on présente des symptômes, ce qu'il faut faire quand on a quelqu'un qui est malade. Et c'est toute cette chose-là, si tout ça se passe bien et vite, effectivement, on pourrait contrôler. C'est juste faire appliquer les mêmes choses, mais sur un territoire plus large. Et ici, la grande contrainte, c'est vrai que c'est d'une population qui bouge énormément, et c'est pas parce qu'un endroit a eu l'épidémie ne l'aura plus. Non, c'est ça qui est un petit peu difficile en ce moment, c'est que une zone n'est pas claire ou n'est pas nettoyée. Enfin, j'ai envie de dire, l'épidémie revient, et pour le moment, c'est vraiment ce circuit. On se dit donc, on devrait normalement avoir déjà informé la population dans ces endroits où l'épidémie revient, et c'est ça qui est compliqué ici. Mais voilà, il faut juste peut-être mettre les moyens, les bons moyens.
Voilà. D'accord. Alors, Kibel, la politique a été un facteur dans l'évolution de cette épidémie, avec notamment le report des élections à Beni et Butembo. Quel est le discours des hommes politiques sur place et des autorités locales? Est-ce que c'est un discours apaisant qui contribue positivement à la lutte contre l'épidémie?
Au départ, les hommes politiques ont tenu le discours, c'est eux qui ont dit que Ebola n'existait pas, que c'était juste pour exterminer la communauté, mais au fur et à mesure, avec le nombre de décès atteints, le discours change. Mais vous savez, il est facile de détruire et difficile de construire. Il faudra naturellement faire appel aux chefs coutumiers, à tous les députés provinciaux et nationaux de cette communauté, pour qu'ils reviennent et changer de discours, faire comprendre aux gens, à la population, que effectivement Ebola est tué, puisqu'on a déjà 1700 cas, donc il faudra changer. Il faut oublier le passé et revenir sur de bonnes bases, sur un discours discours moralisateur.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Nikes. Et nous arrivons donc au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je cite notamment le RTM au Mali et B1 en République démocratique du Congo. Je remercie toute l'équipe. C'était Abdourahmane Dia à Washington. À très bientôt. Au revoir.